Bienvenue au cœur du tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Le tourbillon, c'est le symbole du mouvement, d'une jeunesse qui s'interroge, se révolte, se lève, s'active, par le biais de la création et de la culture. Mais d'où vient cette nécessité de créer du beau, de créer du lien? J'accueille ici à mon micro des visages de cette jeunesse culturelle en lutte, pour nous confier leurs envies, leurs doutes, leurs rêves, leurs peurs face à ce monde qui s'effondre. Venez ici écouter cette jeunesse qui nous implore, comme le disait si bien Nina Simone, « S'il te plaît, ne me laisse pas incomprise ». Bienvenue au cœur d'une jeunesse artistique en mouvement. Bienvenue dans le tourbillon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier vrai épisode du tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. Nous sommes le samedi 18 octobre, il est 16h, c'est une belle journée d'automne à Lyon et je suis avec mon superbe binôme et technicien son, Elio. Alors si nous n'avons malheureusement pas de studio à nous, c'est un mal pour un bien, car nous sommes directement dans la chambre de notre invitée Néa. Bonjour Néa.
Bonjour.
C'est un honneur de commencer ce cycle d'interviews par Néa. Elle est pour moi ce qu'on appelle une amie d'amis, mais pas n'importe laquelle. Déjà parce que tout le monde la trouve fantastique, et que dès qu'elle est mentionnée, c'est pour une création ou une histoire un peu folle, très intrigante, et surtout magnifique. Elle est un jour danseuse contemporaine dans des théâtres, un jour technicienne du spectacle tirant des chars à Chalon dans la rue, un jour chorégraphe de pièces pour enfants, un jour prof de danse, un jour confectionneuse de sa garde-robe et parfois, mais plus rarement, étudiante ingénieure. La première fois que je l'ai vue en vrai, après des mois de récits endiablés, elle faisait des sauts de jazz devant un chapiteau à 3h du matin. Tout ce dont je m'imaginais d'elle était donc vrai. Alors pour découvrir toutes ses facettes et toutes ses surprises, je suis ravie de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle se raconte un peu sa danse et surtout le monde qui l'entoure. Alors pour rentrer progressivement dans le tourbillon de Néa, est-ce que Néa, tu pourrais te présenter ?
Oui, ouais, tu m'as déjà bien présenté, je pense. Du coup, je m'appelle Néa. Pour commencer, je suis étudiante en ingénierie mécanique depuis 7 ans. J'avais pas envie d'être ingénieure mécanique, j'ai jamais eu envie, mais j'étais forte à l'école. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ces études. Et dès que j'ai commencé, je savais que j'avais envie. Enfin, en fait, ça fait même encore plus longtemps que je sais que je travaille dans le monde du spectacle. Mais le monde du spectacle, c'est un milieu qui fait très très peur. D'où les études d'ingénierie mécanique. Et voilà. Donc, j'ai continué mes petites études, j'ai vécu le Covid qui a été très douloureux. Et ensuite, je me suis dit que en fait, j'avais besoin de danser plus que juste danser une fois par semaine ou deux fois par semaine. Donc j'ai commencé une formation de danse qui a duré 2 ans. Et je me suis rendu compte que j'aimais danser, mais que j'étais pas très forte. Mais par contre, que j'avais plein d'idées et que les gens en général me disaient que mes idées étaient assez fun et intéressantes. Et du coup, je me suis dit que peut-être qu'il fallait tenter de faire quelque chose de ces idées. Et à ce moment-là, je me suis un peu lancée à l'aveugle dans créer des choses. Donc, je suis allée voir une association qui cherchait des profs de danse et j'ai dit « Bonjour, je peux être prof de danse ?» Ils m'ont dit « Oui ». Je suis allée voir une association qui porte des projets étudiants et j'ai dit « Bonjour, j'aimerais faire un spectacle ». Ils m'ont dit « Oui ». Et je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir donner des cours de danse et faire des spectacles. Voilà. Et bon, j'imagine qu'on en parlera un peu plus après.
Donc, mais grave.
Continuons sur ma présentation.
Et présente un peu ta danse, ce que tu fais et quelle place ça prend maintenant dans ta vie.
De base, moi, je fais de la danse contemporaine. J'ai commencé assez tard, parce que j'ai commencé en rentrant au lycée. Avant, je faisais du chant lyrique. Aucun rapport.
T'avais jamais dansé avant le lycée ?
Non. Enfin, si, je crois que j'avais pris des cours de danse quand j'avais 3-4 ans, quoi.
Ça t'a pas marqué ?
Ça m'a même traumatisée parce que c'était dans une école, c'était de la danse jazz et on portait des petits.
Des juste corps ?
Non, des petites tenues en mode mini-jupe et soutien-gorge. Et moi, ça m'avait traumatisée. Donc, j'y suis plus jamais retournée. Voilà. Et ouais, non, j'ai commencé la danse en seconde, quoi. Mais j'ai trop aimé. Et j'en ai fait de plus en plus. Et assez vite, ça a pris beaucoup de place dans ma vie. Je me rappelle plus quelle était ta question initiale.
La place que ça prend, est-ce que tu fais comme danse ? Tu fais toujours surtout du contemporain ?
Ouais. Du coup, j'ai fait une formation dans une école plutôt tournée jazz.
C'était une formation de quoi ? De prof ou de
C'est une école privée. Donc ils ont un parcours pour obtenir l'EAT, du coup le diplôme de prof de danse. Et ils ont aussi une formation à la scène. Moi j'ai fait un an en formation à la scène et un an en formation pour être prof de danse. Voilà. Mais le jazz c'est pas mon point fort parce qu'il faut être très tonique et je suis pas assez. Donc je préfère le contemporain.
Et tu nous racontais que tu étais ingénieure en mécanique, également danseuse. Et tu as fait quelque chose dont on m'avait beaucoup parlé, que j'ai pu découvrir il y a quelques jours. Tu as fait quelque chose que personne n'a jamais eu cette idée-là. Tu as fait un solo sur un enregistrement audio d'un cours sur les engrenages.
Oui.
Alors, de mon point de vue, on m'avait dit ça plusieurs fois. J'étais là, mais c'est une folie. Enfin, que se passe-t-il ? Je commence à écouter le truc. Donc, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas d'ingénierie, donc je comprends rien à l'intégralité du cours. Et les premières secondes qui se passent, je suis là, mais c'est super chiant. Et en fait, donc c'est vraiment pas mélodique, pas artistique. Et tu danses dessus, et ça paraît évident. Presque, on se dit, bah en fait, ouais, le prof, il a créé ses mots et ses phrases pour que ça aille dessus. Comment l'idée t'est venue et comment t'as fait ça ?
Alors, J'ai écrit ce solo pour... Il fallait écrire une variation libre dans ma formation, donc je devais écrire un solo, et il fallait un peu que ça nous représente. Et alors, dans l'idée, il fallait montrer énormément de technicité, et je me suis dit, bah alors moi, la technique, c'est pas ce qui me représente dans tous les cas, donc on va choisir un autre angle. Et étant donné que ben, la mécanique, ça prend beaucoup de place dans ma vie...
Malheureusement.
Voilà, je me suis dit que c'était sûrement une très bonne solution, et ça fait longtemps... C'est pas le premier solo que j'écris sur du texte. J'aime beaucoup cette vision-là. J'avais vu un spectacle il y a très longtemps, mais qui m'a énormément marqué de Predj Lokaj, qui s'appelle Hendrix et Deleuze, je crois. Et du coup, c'est un philosophe, Deleuze, si je dis pas n'importe quoi.
Deleuze, je crois.
Deleuze, sûrement. Donc c'est un enregistrement d'une conférence de ce philosophe et les danseurs dansent dessus. Et j'avais trouvé ça absolument génial. Et donc, voilà. Et j'ai choisi un cours d'engrenage pour plusieurs raisons. La première raison très pratique, c'est que ce cours, il était enregistré. Donc, j'ai pu récupérer le son. Et après coup, je me suis dit que c'était un bon choix parce que les engrenages, ça, quand même, ça danse un peu. Enfin, ça tourne, ça bouge. Et dans le texte que j'ai pris, il y a beaucoup de mots qui, en fait, si on les prend hors de leur contexte, ils sont très dansés. Et du coup, en créant, je me suis vraiment inspirée de ça, du double sens de ça tourne. Il y a un passage que j'aime beaucoup où il parle d'une constante qui s'appelle HV. C'est le nom de la constante, quoi. Et comme il le dit vite, on entend le mot HV. Et du coup,
j'ai totalement entendu HV.
Alors que pas du tout.
Oui, en plus, il est à la fois hyper beau et hyper drôle aussi, ce solo, quoi.
Ouais.
Il a un côté un peu... Et ce prof, il l'a vu, ce solo ?
Oui, je lui ai envoyé. Mais il avait pas l'air... il a pas eu la réaction.
Ça l'a pas transcendé, quoi.
Non, pas
Mais ça l'a pas embêté non plus.
Non.
Elle a écouté.
Voilà, exactement. Alors que très peu, j'avais une très mauvaise note à cette matière.
Bon, on est d'accord, Néa, tu vas pas devenir ingénieur.
C'est pas le projet.
Enfin, tu vas devenir ingénieur, mais tu vas pas t'en servir.
Voilà. Ouais, j'aimerais bien avoir le diplôme, mais c'est pas le projet.
Et qu'est-ce que tu aimerais faire après ?
Je ne sais pas.
Parce qu'en parallèle de ça, ce que tu nous as pas expliqué, c'est que tu as fait un diplôme de technique aussi.
Oui, c'est vrai. J'ai fait, du coup, avec l'école d'ingénieurs où je suis, à l'INSA. On a un double diplôme en partenariat avec l'INSAT, donc qui est une école de théâtre assez renommée, qui a un diplôme en direction technique. Donc la direction technique, qu'est-ce que c'est ? C'est la personne qui, pour faire très résumé, c'est la personne qui va gérer la technique dans une salle de spectacle. Donc ça dépend des salles de spectacle, donc ça peut être plus ou moins à grande échelle. Et voilà, donc moi j'ai fait ce diplôme déjà parce qu'il existait. Je suis très... je prends les opportunités quand elles viennent. J'ai eu cette opportunité, j'allais pas dire non. Mais... Et du coup, ça m'a un peu fait découvrir ce monde de la technique que j'avais touché très, très peu. Et où là, du coup, j'ai pu vraiment apprendre, ce qui était intéressant. Et du coup, après, j'ai fait des stages. Enfin, je fais là en ce moment des stages en lien avec ce diplôme. Et ça me permet de découvrir des milieux trop cool. Et ça me permet de me dire que peut-être que je peux faire mon métier dans le monde du spectacle sans totalement abandonner cet aspect ingénieur, sans forcément être ingénieur. Mais en fait, on a quand même appris des choses en étant ingénieur, des manières de travailler, etc., qui me plaisent. Enfin, moi, j'aime réfléchir et j'aime même faire des calculs, toutes les choses comme ça, j'aime bien. Et du coup, ben, cette approche-là de la technique, et c'est un peu le bon moyen de mêler les deux.
Et de travailler dans le milieu du spectacle sans être uniquement lié à la danse aussi ?
Ouais, bah de découvrir plein de milieux. Après, j'aime la danse. J'ai pas envie d'abandonner la danse.
Puis même dans des salles de technique, tu danses d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de danser tout le temps ? Toi, en plus, qui n'as pas grandi avec ça, enfant.
Je saurais même pas expliquer, mais c'est vraiment un besoin. Je saurais pas expliquer ce que ça m'apporte profondément dans moi, mais juste... Je sais que j'ai besoin de danser et si je danse pas pendant un jour, le soir je vais mettre de la musique et danser dans ma chambre parce qu'en fait mon corps il a besoin de, je sais pas,
d'être en mouvement,
des trucs, ouais, sans forcément que ce soit raconter quelque chose ou quoi que ce soit, mais juste bouger quoi.
En plus, alors attends, au printemps t'as monté une pièce qui s'appelle Regarde la nuit, qui est une pièce à destination du jeune public. C'était la première fois que tu étais plutôt du côté enfant ?
Ouais, bah alors ma maman est maîtresse, donc j'ai toujours été en contact avec des enfants depuis que je suis sortie de l'école primaire. Je continue à aller voir ma mère et à faire des ateliers avec les enfants. J'ai été aussi animatrice, donc j'ai fait danser des enfants et j'ai vu des spectacles jeunesse en étant enfant, mais aussi en tant qu'adulte. Et... J'ai surtout vu des choses où je me suis dit, alors là, c'est nul. des spectacles qui ont été écrits pas en pensant aux enfants, quoi. Et du coup, j'avais un peu envie de...
De toi penser aux enfants ?
Ouais, voilà. De faire ce que moi, j'aurais aimé voir quand j'étais enfant, parce que sans cracher sur les guignols ou les choses de ce genre, mais bon, voilà, il y a des choses plus intéressantes.
Je sais plus qui disait que le public le plus exigeant, c'était les enfants. Parce que c'est un public exigeant, puis à part, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est difficile de s'attendre à ce qu'ils vont aimer, ce qui va les intéresser ou pas. C'était assez différent, en vrai, comme
création. Et comment tu chorégraphiais, justement, en pensant à ce public-là, alors que t'avais pas d'enfant avec toi
On s'est dit très rapidement, parce que du coup, j'ai pas chorégraphié seule. On était deux danseuses, et on a bossé beaucoup avec un technicien, Lumière. Dès le début, on s'est dit qu'il fallait qu'on raconte une histoire parce que ça semble assez évident que des enfants, ils sont pas encore assez... c'est pas ouvert d'esprit le mot parce que pas du tout, des enfants c'est très ouvert d'esprit, mais c'est beaucoup plus simple de les raccrocher à une histoire, à un développement que à des images qui vont un peu perdre leur sens. Du coup, on a assez rapidement écrit une histoire assez simple. En réfléchissant un peu aux propos qu'on voulait amener. Donc l'idée à la fois c'était d'utiliser la lumière et la danse. En fait, revenons à la genèse du projet. Au début, moi je voulais juste faire de la danse avec de la lumière. Parce que
ce spectacle, il a une... Au-delà d'être de la danse pour les enfants, il a surtout... Enfin, la technique, la lumière, de par la création technique, a une place entière
c'est
dans
ça,
ce spectacle.
Ouais. Que
je n'ai pas vu, mais...
On a vraiment écrit ensemble... dans ces lumières. Enfin, dès le début, on savait que on voulait mettre
la lumière est un protagoniste en dessous de la
exactement.
Pièce, quoi.
Et du coup, au début, c'était ça l'idée. Et en discutant, on s'est dit qu'en fait, ce serait très bien de le faire pour des enfants parce que la lumière dans le spectacle, ça a quelque chose de très magique et que cette magie, bah, elle est assez facilement transmissible du coup à des enfants. Donc ça a été un peu ça l'idée de base. Après, on a essayé de réfléchir un peu à un propos profond de qu'est-ce que représente la lumière ? Est-ce qu'elle nous protège ? Est-ce qu'elle nous guide ? Donc on est parti un peu de ça. On a écrit un peu notre petite histoire. On voulait des moments assez forts pour que ce soit compréhensible par des enfants, parce que la danse, le problème, c'est que c'est pas du théâtre, donc en fait, on comprend pas forcément ce qui se passe. Et... du coup, avoir des images un peu fortes, on a un passage très rigolo, très fun, on a des passages un peu tristes, des passages qui font peur. Donc on a essayé de les travailler à fond, à la fois avec la danse, à la fois avec la lumière. Et voilà, ça a été un peu ça notre processus. Après, j'ai quand même beaucoup parlé à ma mère, du coup, qui est maîtresse, pour lui demander son avis sur deux, trois choses qu'on n'avait pas envie... par exemple, on n'avait pas envie d'effrayer les enfants. Et on a écrit une scène, et notamment avec la lumière, à un moment, on s'est dit « Oula, mais là...
Ça fait peur.
Ouais, ça fait très peur. Même nous, on a peur, en fait. Du coup, on s'est dit « Bon, bah, peut-être qu'on va calmer un peu le jeu. » Et voilà. Mais ça a assez bien marché, puisque du coup, on l'a dansé dans une école en juin. Et... au début des scènes, on s'était dit « Ah ouais, alors là, ils vont trouver ça drôle et tout. Bah, » à chaque fois, on entendait des petits chuchotements en mode « Ouh là, ça fait peur, ouh là !» Du coup, on était assez contents.
Et en quoi, justement, t'as trouvé, que ce soit dans la création ou dans le moment où tu l'as représenté, en quoi c'était vraiment important de décider de monter des choses entièrement pour des enfants par rapport au fait qu'on met un peu les enfants, des fois, en disant que c'est moins important et que c'est moins grave, et de décider de consacrer toute ta création vraiment à ce public-là?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené voir des spectacles très tôt, et je pense que ça m'a permis d'aimer la culture. Et je trouve que c'est trop important, la culture en général, enfin les spectacles, les musées, etc. C'est hyper important dans notre société. Et le problème, surtout dans l'art contemporain, c'est que si t'es pas habitué à le voir, c'est dur d'accrocher. Et j'ai des souvenirs, même moi, de spectacles où je me suis dit « Bon, alors là, c'est hyper perché. » Et plus j'en vois, plus même les trucs très perchés, je me dis « Oh, mais en fait, c'était bien parce qu'à ce moment-là et tout. » Et je pense qu'il faut s'habituer, en fait, à voir ça pour l'apprécier. Et du coup, montrer des spectacles aux enfants qui vont leur plaire, qui vont leur laisser des bons souvenirs, je me dis... C'est peut-être un peu utopiste, mais je me dis que y en a peut-être 3-4 dans le lot, voire plus, qui vont soit retourner voir des spectacles, soit emmener leurs parents en leur disant « Bah oui, mais moi j'avais vu un spectacle de danse, c'était bien, donc peut-être on va en voir un autre. » Là, en plus, avec la lumière, ensuite on a fait un atelier avec les enfants où ils ont pu toucher un peu à de la lumière. Et qui sait, peut-être que dans le lot, il y en a un ou deux qui se sont dit « Bah c'est génial, je savais pas que ce métier existait ou que cette pratique existait. » Et voilà, et du coup, plus on commence avec des enfants tôt, on les embrigade.
Dans l'intermittence.
Pas forcément dans l'intermittence, mais oui, dans la culture, quoi. Plus on est exposé à des choses, plus on a envie après de se renseigner et de découvrir plus.
Puis de leur montrer aussi qu'on peut passer du temps à regarder des choses qui servent à rien, alors
ouais,
qu'en fait,
ça
sert à plein de choses.
Exactement. Qui sont belles, ou pas belles d'ailleurs, mais qui. Oui.
Si, je crois que c'était très beau, Regarde la nuit. Et là, à la rentrée 2026, tu vas présenter une autre pièce à destination des enfants.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu par hasard. Mais oui, avec du coup une copine qui fait du théâtre, on va monter Le Petit Prince pour plusieurs raisons. Enfin, c'est pas mon idée de base pour le coup. Cette fois-ci, c'est pas moi qui mets en scène ou quoi que ce soit. Moi, je suis juste... dedans et je chorégraphie un petit peu, mais ouais, Le Petit Prince, c'est une belle pièce et elle est pleine de messages hyper profonds. Puis là, plus on y travaille, plus on
pour ceux qui sont pas dans la pièce avec nous, ça fait 3 fois qu'en parlant du Petit Prince, Néa elle regarde sa bibliothèque où il y a genre 10 exemplaires du Petit Prince dans plein de langues différentes.
Je suis très fan du Petit Prince, j'ai une sculpture aussi.
Elle est adorable.
Mais et oui, et le Petit Prince, c'est une pièce qui a été écrite il y a très longtemps, mais quand on la relit, elle est avec notre regard de grande personne, pour citer l'auteur. Il y a beaucoup de choses qui sont encore extrêmement d'actualité, qui sont très poétiques, mais où...
T'as des exemples à nous donner, par exemple ?
Ouais, dans cette pièce, il y a tout un... Enfin, dans cette pièce, dans le livre, parce que du coup, la pièce, c'est vraiment une écriture théâtralisée du livre. On n'a pas apporté de modification. Il y a tout un passage où le Petit Prince... Il nous parle de sa planète, donc il vit sur une toute petite planète, et sur cette toute petite planète il y a des baobabs qui poussent, et il nous raconte que les baobabs, il faut s'en occuper très vite, parce que si on les laisse pousser, en fait après ils prennent toute la place et ils peuvent détruire et faire exploser la planète. Et c'est assez reconnu que l'auteur, en parlant de ces baobabs, en fait il parlait du fascisme, parce que c'est une pièce qui a été écrite pendant la Seconde Guerre mondiale ou juste après, ça j'avoue j'ai pas... Mais du coup, voilà, et c'est vrai que si on fait le parallèle, c'est très clair que si le fascisme arrive et qu'on ne l'enlève pas à la source, il s'étale petit à petit et prend de la place et ça fait exploser la planète.
Et là, du coup, dans cette pièce que vous montez, ce sera théâtre et danse ?
Ouais, l'idée, c'est de mélanger les deux. Voilà, d'avoir En fait, il y a plein de personnages dans l'histoire du Petit Prince, puisqu'il se balade de planète en planète, et du coup, d'utiliser la danse pour représenter certains personnages. Voilà. Et parce qu'on aime bien danser.
Depuis le début, tu nous parles de plein de formes variées, que tu cherches tout le temps des nouvelles formes, des nouvelles manières d'aborder la danse et la création en général, que ce soit les solos de mécanique ou les enfants ou la lumière, etc. Pourquoi t'aimes bien jouer avec ce cadre classique de la création ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime tout dans la vie. Je déteste faire des choix. J'ai envie de tout faire. Et j'ai l'impression qu'en créant, c'est un peu la manière que j'ai trouvé, moi, de mélanger tout ce qui me plaît. Ouais, de pouvoir relier dans une seule et même chose. C'est un peu quand je crée un spectacle, c'est un peu les seuls moments où je me dis, waouh, là, tout ce qui me plaît, bah, je peux le mettre dans un seul endroit. Je peux écrire, je peux dessiner, je peux fabriquer des costumes, je peux faire du son, de la musique. Bon, alors la lumière, je ne sais pas faire, mais ça me passionne énormément. Donc, je peux donner des ordres aux gens de faire la lumière. Et du coup, c'est un peu ça qui me plaît dans l'art en général, c'est de pouvoir vraiment mélanger tout ce qui m'intéresse. Et il y a une deuxième chose que j'ai un peu découvert à mes dépens, c'est que je pense que je ne me fais pas encore extrêmement confiance dans la danse. Je sais que je n'ai pas un niveau extraordinaire et que seulement avec ma danse, je ne me démarque pas. Et que du coup, bah, utiliser toutes ces autres choses qui...
Ça, c'est ton point de vue. Hein.
C'est mon point de vue. Je ne sais pas ce
que ça fait
vaut.
Une semaine que je regarde des vidéos de toi pour préparer cette interview. Je ne suis pas d'accord.
Oui, c'est mon point de vue, en effet. Mais, et du coup, rajouter des choses, j'ai remarqué ça. J'avais fait un spectacle qui s'appelle Business Day. Et j'avais envie qu'il y ait plein de bazars partout. Et à un moment, je me suis dit, mais bah, en fait, tu pourrais, tout ce bazar partout, là, tu pourrais le représenter par la danse. Et en fait, non, j'ai besoin d'avoir un peu plein d'objets, des trucs qui viennent nourrir la danse. À la fois parce que j'aime bien et à la fois parce que j'ai le sentiment que juste de la danse toute seule, pour l'instant, je ne me sens pas encore prête à avoir que ça, quoi. Et même pour, du coup, une pièce que j'avais fait avant qui s'appelle Nina Simone.
Dont on parlera un peu après.
Qui est une pièce, du coup, qui est basée sur une pièce de théâtre de base. Donc, c'était la première pièce que j'ai écrite. Et j'avais vraiment besoin de me baser sur quelque chose et de ne pas partir de rien. Et du coup, avoir cette pièce de théâtre, c'était un peu l'occasion de me dire, bon, bah, j'ai déjà une trame, j'ai déjà une histoire, j'ai déjà un propos. Moi, j'ai juste besoin de mettre de la danse. Donc, voilà.
Et j'ai demandé à des amis à toi s'ils avaient des questions à te poser. Et il y en a une qui s'appelle Léa, qui nous attend derrière la porte avec le goûter, qui voulait savoir d'où ça te vient, toutes ces envies-là, comment elles arrivent. Et elle m'a dit cette phrase adorable, elle m'a dit « Néa, elle arrive, elle a un projet, ça a popé comme ça, tu sais pas d'où ça sort, elle le fait et on est sûr que ce sera incroyable. »
Oh waouh. Je suis très flattée, je sais pas si c'est incroyable à chaque
fois.
Et
alors, Léa, elle avait envie de savoir d'où ça te vient, ces idées. Est-ce que tu les cherches ou est-ce qu'elles s'imposent à toi ?
Ça dépend. Il y a plein de... J'ai plein de sources. J'ai un carnet. Dès que j'ai une idée, je m'oblige à écrire une page entière dans ce carnet pour développer cette idée. Donc même si mon idée, par exemple, c'est juste... j'aimerais bien... Je sais pas, j'aimerais bien faire un truc sur le jardinage. Bon, bah voilà, c'est une idée toute nulle. Et je sais pas ce qui se passe dans la tête des autres gens, mais j'ai l'impression que des fois, on a tous un peu ces genres d'idées très nulles. Mais du coup, de se forcer à le mettre à l'écrit, à écrire une page entière pour développer l'idée, des fois, tu te rends compte qu'il y a rien qui en ressort.
C'est génial mais... comme...
c'est un bon moyen de créer,
Je vais essayer de faire ça, en fait, c'est super.
Et voilà, du coup, l'idée initiale, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Ça peut venir de... Je sors d'un spectacle et je me suis dit, ah ouais, ça, j'ai trop aimé. Ça peut venir de... Je me balade dans la rue et je trouve que c'est vachement intéressant comment ça s'organise un chantier. Il faudrait faire un spectacle de danse sur un chantier. Ça peut être tout.
T'es ingénieur, toi, non?
Oui, il y a des choses bizarres qui m'intéressent. Et voilà, et du coup, j'écris. Donc, j'ai ce petit carnet que des fois, je relis et je me dis, ah, bah, ça, c'était une bonne idée. Faudrait en faire quelque chose. Et donc ça, c'est l'étape préliminaire. C'est comment les idées, elles pop. Mais après, le plus difficile, c'est de les transformer en réalité. Quand j'étais petite, j'avais fait un stage avec un écrivain. Parce que quand j'étais petite, je voulais être écrivaine. Voilà. et qui nous avait dit, en fait, tout le monde a des idées, mais ce qui différencie un artiste d'une personne lambda, c'est qu'il met en pratique ses idées. Et ça fait très longtemps que j'ai fait ce stage, et cette phrase, elle m'a marquée, et je la ressors un peu à toutes les occasions, parce que, en fait, c'est vrai, on a tous des idées, mais bah, il faut juste sauter le pas et les mettre, enfin, les réaliser, quoi. Et du coup, je me force un peu. L'avantage, c'est que je suis entourée de plein de gens géniaux qui me permettent de réaliser mes idées, donc c'est beaucoup plus facile que d'être tout seul et d'avoir une idée et de se dire, bon, bah maintenant, il faut faire un spectacle.
Et puis, ce qui compte, c'est de faire des choses, hein.
Ouais, c'est ça, et de se lancer, et on verra bien, quoi. Et au final, bah, y a des choses qui sortent de ça, donc c'est trop cool.
Et on va aller un peu lentement, mais sûrement, parler un peu plus de la jeunesse et de tout ce que ça fait, ça crée. Mais juste avant, est-ce que tu peux nous parler un peu de Nina Simone ? Donc, c'est une pièce que tu as créée il y a 2 ans, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Donc, l'adaptation de la pièce de théâtre « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter », qui est une pièce d'1 heure avec 9 danseuses. Dedans, t'es interprète et chorégraphe, et c'est ta première chorégraphie, c'est ça ?
Ouais.
En entière.
Oui, enfin, c'est le premier spectacle complet.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce ?
Ouais, carrément. Du coup, de base, c'est une pièce de théâtre de Darina Al-Joundi que j'avais jouée quand j'étais en seconde, parce que je faisais du théâtre au lycée. Très random, j'étais très nulle en théâtre. Mais j'avais adoré cette pièce et on avait vu l'autrice la jouer, enfin jouer un extrait, et ça m'avait vraiment marqué parce que c'est une pièce qui parle du coup de la guerre en Iran.
Au Liban.
Je sais. Qui parle de la guerre au Liban et qui du coup parle, enfin ça suit un personnage principal qui s'appelle Noun et qui vit cette guerre et je veux pas du tout... Bref, je m'identifie un peu à elle dans le sens où elle a une famille très, très politisée, très artiste aussi. Donc c'est un peu la même enfance que j'ai eue. Alors moi j'ai la chance de pas être au Liban, donc de pas avoir vécu la guerre. Mais du coup de voir comment elle évolue...
C'est dans les années 70 en plus du coup.
Ouais, c'est ça. Et c'est assez horrible, assez poignant. Et du coup ça m'intéressait énormément. Et donc... Ça faisait très longtemps que j'avais... Enfin, c'est mon livre préféré, c'est ma pièce de théâtre préférée. Je la lis tous les ans à peu près pour repleurer un bon coup et me dire « Waouh, le monde est horrible !» Et du coup, ben, c'était assez évident que je voulais faire un truc sur ça. Et voilà. Et aussi, je pense que j'avais un peu envie... À l'époque, j'ai beaucoup changé, je pense, dans ma vision de la danse. Mais pour moi, l'art... Enfin, si on fait de l'art, il faut forcément avoir un message politique. Et du coup, ben, c'était un peu la... Ben, c'est assez explicite, quoi. C'est un livre qui parle de la guerre. Bon, ben voilà, c'est bon, le message, il est là, il existe. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Depuis, je pense que ma pensée a un peu évolué. Mais du coup, c'était un peu...
Tu penses que ta pensée a évolué dans quel sens ?
Dans le sens où... Maintenant, je pense que tout est politique et que déjà faire de l'art, ça suffit en fait comme message politique.
Que de parler de la répression des femmes au Liban.
Ouais, oui, non mais... Puis en plus, ce qui était assez dur dans cette pièce, c'est que nous, on n'était que des femmes blanches qui n'ont jamais vécu ni la guerre, ni les guerres de religion, ni l'oppression. Enfin, voilà. Et du coup, porter ce message, plus le temps avançait, plus je me disais, c'est très intéressant de porter ce message. Mais à quel point est-ce qu'on est légitime dans ça ?
Et ça, c'est une question qui s'est imposée pendant la création ou déjà un peu avant ?
Je me l'étais déjà posée avant parce que typiquement dans la pièce, le personnage principal, comme il est écrit, elle est athée. Et du coup, elle se plaint énormément du Coran. Et c'est quelque chose d'assez important dans cette pièce de théâtre. Et je me suis très rapidement posé la question de comment est-ce que je le représente ? Parce qu'en fait, nous, personne n'est croyant. Donc, est-ce qu'on va cracher sur le Coran comme ça, sans rien, sans avoir d'histoire ? Moi, j'ai pas de raison de cracher sur le Coran. Là, dans la pièce, elle crache sur le Coran parce qu'en fait, elle crache sur le régime oppressif qui s'en dégage et pas sur la religion en tant que telle. Puis dans la société actuelle,
est-ce que c'est
pas
une bonne
vraiment
idée
envie de cracher sur le Coran, quoi. Je suis pas du tout légitime, quoi. Et du coup, ouais, c'est... dès le début, on s'est dit qu'on allait un peu
écarter
cette partie-là. Il y a aussi un long passage sur des violences sexuelles qu'elle a subies. Pareil, bah, on est personne dans toutes les danseuses n'a vécu des choses aussi horribles. Et moi, je me sentais pas prête de parler de ça parce qu'en fait, c'est quelque chose que je connais pas, que je suis pas, je me sens pas prête de représenter sur scène. Du coup, pareil, on a évité le sujet et bah, à la fois, je suis contente qu'on l'ait évité parce que bah, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. À la fois, c'est prendre une pièce qui est pleine et prendre que les choses qui nous intéressent et dont on veut.
Après, c'est une pièce qui est tellement intense et avec tellement d'histoires différentes qu'en danse, tu peux pas venir tout porter.
Oui, oui,
sinon,
c'est
presque indigeste. Mmh. Enfin, on sait plus où ça va.
Oui, donc c'est dans plus tous les cas, il fallait faire des
c'est
choix.
C'est plus une atmosphère et une ouais. résistance que tu portes dans la pièce que.
Oui,
plein de
ça.
Prose. Enfin, très concrètement, dans la pièce, même s'il y a des moments de texte, tu décris pas la guerre, etc.
Oui, non, non. Oui, ça reste assez imagé. Mais justement, en fait, on s'est basé vraiment sur des scènes de la pièce de théâtre pour écrire nos scènes dansées. Et c'est justement toutes ces scènes un peu sur des sujets plus touchy. On s'est dit que, bah, avec juste une image et juste de la danse, si on le développe pas, en fait, ça a pas de sens, quoi, de parler des violences faites aux femmes comme ça sur une scène de 5-10 minutes dans un spectacle complet. Bah, ça apporte pas grand-chose, quoi.
Ouais, c'est des sujets à part entière, en fait,
ouais,
que tu peux pas
ça.
Forcément...
Mmh.
Et maintenant, du coup, tu fais des pièces un peu plus légères.
Bah, j'ai découvert que la danse, ça pouvait être drôle. Et je sais pas si je suis très drôle dans la vie, mais en tout cas, j'adore la danse qui me fait rire. Je trouve ça génial. Et depuis que j'ai découvert ça, je vais voir de plus en plus de spectacles qui sont beaucoup moins profonds. Les gens, quand ils définissent la danse contemporaine, souvent, si on leur demande qu'est-ce que c'est la danse contemporaine, ils sont en mode « Ah, mais c'est de la danse un peu triste, un peu... »
Où les gens se roulent par terre.
Exactement. Et en fait, c'est pas que ça. Et, du
et
coup,
ça peut être très, très drôle, en
ça
plus.
Ça peut être hyper drôle. Et j'ai vu vraiment des pièces où j'étais morte de rire, quoi. Et je me suis dit « Mais c'est génial, c'est un peu ça que j'ai envie de... » C'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de chercher, quoi. J'ai pas envie de faire que des pièces extrêmement dramatiques où on pleure à la fin, parce que c'est hyper dur de faire pleurer les gens, alors que les faire rire, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà.
Parce qu'en théâtre, des fois, on dit l'inverse.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais le comique de geste est assez simple.
Ouais.
Enfin, c'est pas simple. Je pense pas que mes pièces sont hilarantes. Mais ouais, ça, je pense que ça me fait aussi plus de bien de faire des choses plus... Pas forcément légères, mais plus... Ouais, drôle.
mais tu penses quand même que ta danse ou cette manière assez drôle d'aborder la danse, c'est quand même un vrai moteur politique dans notre société ?
Ben, je pense que ça rend accessible, déjà. Je sais que c'est souvent ce qu'on me dit quand on voit mes spectacles, c'est que oh, ben, d'habitude, je comprends rien, puis là, ça va, j'ai compris. Donc... Encore une fois, comme je disais, je trouve que le fait de faire de l'art, c'est politique en soi. Donc d'emmener les gens à voir de l'art et à le comprendre, bah, ça leur permet petit à petit d'être ouvert et à, au final, aller voir peut-être des pièces où ils comprendront rien, mais où ils vont apprécier. Mais de faire quelque chose d'accessible, de compréhensible, bah, ça permet d'éveiller un peu le regard des gens, quoi. Donc c'est déjà un choix politique, je trouve, de rendre accessible...
D'autant plus la danse qui est vraiment pas un art très accessible et
ouais.
C'est un peu la sœur rebelle du théâtre quoi.
Oui c'est ça, c'est vrai que la danse contemporaine il y a un petit milieu de gens qui aiment la danse contemporaine et sinon c'est oui je pense que tu parles de la danse contemporaine aux gens dans la rue quoi, c'est un peu en mode
ouais. Ouais, les formes hybrides que t'apportes permettent aussi de rendre plus accessible
ouais,
parce qu'il y a
ça.
Un concept, il y a une autre idée que juste des gens un duo sur du piano dans
même
une boîte
si
noire
moi,
bon.
C'est vrai que ça me dérange pas du tout de... Enfin, ça m'énerve même d'ailleurs les gens qui sortent d'un spectacle de danse contemporaine et qui sont en mode oui parce qu'en fait ce passage ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Moi je me laisse hyper facilement porter par ouais bah là je me suis sentie bien, puis là je me suis sentie bah enfin voilà, c'est je trouve que la danse contemporaine n'est pas forcément, enfin ça a pas forcément besoin de raconter une histoire, mais on a besoin souvent d'une histoire ou d'un fil conducteur compréhensible pour rester un peu happé.
Oui, l'histoire du théâtre, par exemple, permet quand même
ouais,
de,
voilà,
que ce soit
ça.
Plus simple. Et dans la danse, on a des fois un peu du mal.
Oui, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe.
C'est souvent ça l'intérêt, justement, de
oui,
la danse, c'est de ne pas comprendre et de lâcher un peu. T'es dans ta dernière année d'études, là. Et si on comprend bien, c'est 7 dernières années. Déjà, t'as fait 7 ans d'études.
Et je ne suis pas médecin.
T'as bien saisi toutes les petites opportunités de faire autre chose que des études avec la vie étudiante, associative, la création. Quel regard tu portes justement sur cet espace un peu hybride qu'offre la vie étudiante?
Ben, déjà, je suis très contente d'avoir pu faire ça. Je me rends compte que c'est pas forcément... Enfin, moi, j'ai eu l'opportunité de faire des choses géniales et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu cette opportunité-là et qui auraient sûrement fait des choses géniales aussi, mais qui n'ont pas eu accès à tout ce milieu associatif, à tout... Enfin, faire un spectacle, ça coûte cher. Et j'ai pas eu besoin, jamais, de débourser 1 euro de ma poche pour faire ça. Et ça, c'est quand même un luxe. Parce que sinon, j'aurais pas fait autant de choses, je pense. Donc, ben, c'est super. Et j'ai découvert... Du coup, j'ai fait une formation de danse. Et ben, il y avait beaucoup moins de moyens dans cette formation de danse. Et j'en suis ressortie un peu frustrée en me disant, ben, là, je fais des études de danse. Et c'est là où je devrais créer des choses. Et en fait, bah, y avait aucun moyen donné à ça, à laisser bah, les étudiants créer. Et du coup, bah, tous les spectacles là, dont j'ai parlé, je les ai créés dans mon école d'ingénieur. Ce
qui a c'est aucun pas n'importe sens. Quelle école d'ingénieur quand même. Mais...
oui, mais n'empêche que c'est pas logique. Enfin, normalement, ça aurait été plutôt dans le monde de la danse, quoi. Donc, c'est une chance de fou de pouvoir faire ça et j'en suis hyper reconnaissante et c'est dommage que ce soit pas disponible à tout le monde de pouvoir mettre ses idées et ses projets comme ça afin de pouvoir les réaliser facilement entre guillemets.
Bah c'est sûr que on pourra un peu utiliser comme exemple pour dire aux lycéens qu'on peut faire plein de choses à côté de ses études,
c'est ça.
Et que ça apporte plein de choses et la suite elle t'apparaît un peu vertigineuse.
Oui. Ouais, c'est bien d'être étudiant et justement d'avoir tout ce cadre qui me permet de faire des choses. Et là, je vais arriver à un moment dans ma vie où il va falloir que toutes ces choses que je fais à côté, bah, ça devienne les choses que je fais tout le temps. Et ça me rend très heureuse, mais juste il faut gagner.
Bah, c'est sûr que quand on est étudiant et qu'on a la grande chance de pouvoir se permettre des études, tout ce qu'on fait en cours, en fait, c'est... de toute façon, on n'est pas payé pour ça. Mmh. Donc en fait, tout ce qu'on fait à côté non plus, donc on a une... C'est un peu au même niveau, alors que quand on travaille, c'est plus du tout au même niveau.
Exactement. Mais déjà, ça a été une vraie question que je me suis posée quand j'ai commencé mes études de danse, où je me suis dit, est-ce que je vais vraiment aimer que ce soit mes études, ce soit la danse, parce que pour l'instant, c'était qu'un à côté. Est-ce que ça va me plaire assez pour le faire du matin au soir? La réponse est oui. C'était fatigant, mais c'était bien. Et du coup, ça m'a un peu rassurée aussi sur le futur, sur... le fait que c'est ce que j'ai envie de faire. Mais est-ce que c'est ce que je peux faire? Est-ce que c'est ce que je pourrais faire? Ça, je sais pas. Ça fait peur.
En tout cas, t'as mis plein de cordes à ton arc pour pouvoir...
Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cordes à mon arc, mais c'est pas des cordes très... très robustes, quoi. Mais il y en a beaucoup.
Et Néa, t'es en fin d'études, mais t'es du coup un peu vieille, parce que t'as fait... des études très longues, mais pas tant en fait. Quel regard tu portes justement sur notre jeunesse? On dit tout le temps qu'on est un peu feignant, qu'on est en plus une jeunesse de Covid, qu'elles vont pas passer le bac. Et...
Avec le regard de je fais partie de la jeunesse ou je vous regarde, vous, les jeunes?
Non, toi. À 24 ans, on est encore très jeune.
J'ai encore la vie devant moi. C'est bête de dire ça parce que je pense que la jeunesse actuelle, on a juste trop de choses qui s'offrent à nous. Entre bon, déjà l'état actuel du monde qui est vraiment pas cool, qui fait pas rêver, et les réseaux sociaux, et la société de consommation qui est de plus en plus intense et qui nous pousse à vouloir acheter, faire, consommer, produire de plus en plus. Je pense pas qu'on ait une jeunesse feignante. Je pense qu'on est juste une jeunesse un peu surbookée, avec beaucoup de choses à gérer qui sont pas forcément agréables. Notamment le Covid, par exemple. Non, mais en vrai, c'est quand même... Enfin, on a tous perdu 2 ans de notre jeunesse, qui sont 2 ans en général... assez importante. Enfin, moi, ça a été mes 2 premières années d'études et je suis un peu triste de les avoir passées enfermées dans ma chambre. Alors que c'est
du coup, tu t'en as rajouté 2 après. Parce
voilà,
que...
c'est ça. Ouais, ça aurait été dommage de perdre tout ça. Mais Ouais, non, je pense qu'on est même l'inverse d'une société feignante. On est, enfin, d'une jeunesse feignante, parce que après, peut-être que je m'entoure de gens qui ont envie de faire des choses et qui font des choses, du coup, mais.
Et est-ce que c'est pas ça qui compte, justement?
Oui, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde fait des choses. Enfin, et même les réseaux sociaux, il y a ce truc de. Ça nous prend énormément de temps et de. Bon, voilà, c'est un sujet
et de
à
concentration.
Part entière. Mais par contre, c'est aussi un moyen génial de créer et de partager. Et
y a... D'apprendre des choses.
Exactement,
et de...
c'est ça.
D'être en contact avec d'autres gens, totalement.
Enfin. Le concept de tuto sur YouTube, c'est quand même absolument génial. Enfin,
ouais, puis même, je sais pas, faire des vidéos sur TikTok de
ouais,
danse, en fait, c'est un moment
c'est
où tu danses quand même, quoi.
Exactement, puis ça permet de partager. Enfin, ouais, non, c'est juste super que tous ces médias existent, quoi. Et justement, la jeunesse actuelle, elle s'en sert et elle en fait des choses géniales. Enfin, il existe des projets absolument géniaux, comme par exemple ce podcast. qui serait pas possible en fait il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans bah, tu veux faire un podcast, bon bah il faut une radio, bah on n'a pas de radio, alors qu'en fait là maintenant on peut tout, quasiment tout faire
et là maintenant
eux.
On a des amis qui ont des micros donc on peut,
c'est vachement pratique.
Avec Néa on sait bien s'entourer. Et je t'ai demandé quelque chose, on m'a confié que tu étais un peu stressée de la question que je vais te poser. C'est la seule question où elle savait.
J'ai pas trouvé
de réponse. Ah bon, c'est pas grave. Je voulais te demander si t'avais une recommandation culturelle, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être un livre, ça peut être une personnalité qui justement parle de cette jeunesse qui bosse, mais ça peut être de la jeunesse il y a 40 ans, hein, qui parle de ce tourbillon de la jeunesse.
Alors j'ai beaucoup réfléchi, mais vraiment beaucoup. Et j'ai une conclusion, c'est que, en fait...
Il y a une mouche dans la
ouais.
chambre, c'est normal.
Ma conclusion, c'est que je n'ai aucune référence culturelle de personne de mon âge. Et je pense que c'est...
Que t'as pas dans ton environnement culturel des choses faites par des gens de 24 ans ?
Par des gens de 24 ans ou avec des gens de 24 ans. Et enfin, vraiment, je me suis creusée la tête. Et tous les livres que je lis, ça va être... Bon, je lis beaucoup de livres pour enfants. Donc c'est souvent des personnages qui ont 12
ans. C'est de la très jeunesse.
Voilà. Et ou des choses pour adultes, mais en fait, ce passage un peu bizarre de la vingtaine, bah, c'est très peu représenté. Et dans les films, c'est pareil. Enfin, les films d'ados, c'est des films d'ados. Puis ensuite, t'as les films d'adultes. Et il n'y a pas de film de j'ai 20 ans, je suis encore un peu étudiante, mais en même temps, j'ai des amis qui, en fait, ils ont une maison parce que. Voilà. Et. Enfin, c'est un passage de la vie qui n'est pas tant représenté, j'ai l'impression, en tout cas de moi, ma vision de la culture. Du coup,
voilà. On va rarement voir une pièce de théâtre qui parle de la vingtaine
c'est
et d'être perdu dans sa vie, quoi.
Bah ouais, j'ai l'impression.
Bah, t'as une nouvelle idée à mettre dans ton carnet.
C'est clair. Mais en même temps, et je pense qu'à la fois, parce que des gens de 20 ans, il y en a très peu qui font des spectacles et qui sont vus et reconnus ou qui écrivent des livres.
On pourrait l'écrire quand on est plus grand et qu'on a plus de réseau et...
Mais ça doit être difficile a priori de se mettre dans la peau d'un enfant, c'est compréhensible, se mettre dans la peau d'un jeune adulte, bah. Et
puis
même moi je me rends compte
je pense que aussi les expériences de vie des jeunes adultes sont très très liées à l'époque dans laquelle ils sont, alors
c'est
que l'expérience d'un enfant est un peu plus universelle.
Oui exactement. Du coup,
la jeunesse de nos parents, c'est pas du tout
la
nôtre.
On n'a pas. Déjà, ils ont eu une jeunesse moins longue. Enfin, non, mais c'est vrai. Non, mais dans le sens où tu me dis, moi, j'ai fait 7 ans d'études. À l'époque de mes parents, enfin de nos parents, c'était assez rare. Tu faisais tes études, t'avais un métier, tu faisais ton métier. Il y avait pas trop ce truc de.
Puis t'avais des enfants jeunes.
Voilà.
Et puis...
Enfin, moi, mes parents, ils m'ont eu à 26 ans. Donc, c'est-à-dire, ça voudrait dire que dans 2 ans, j'ai des enfants. On n'est plus la même jeunesse, quoi. Et il y a ce truc de changer
d'études. Donc on arrête d'être jeune quand on a des enfants ?
Non, on n'arrête pas d'être jeune, mais on est moins perdu dans sa vie. En tout cas, c'est ma théorie. Voilà.
Est-ce que tu as des choses à nous ajouter ? Tu veux dire aux gens qui nous écoutent, qui écoutent ce premier tourbillon ?
Non, créer. Faites de l'art, c'est génial.
Et bien sur ces belles paroles, vous venez d'écouter un épisode du Tourbillon, le podcast d'une jeunesse qui se lève. La partie technique d'enregistrement et de montage a été assurée, ainsi que de soutien émotionnel de moi, a été assurée par Elio Vatan, l'écriture et la réalisation du podcast par moi, Marwa Picard. Le graphisme a été créé par Émile Caron. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur notre super site conçu par mon petit frère Zadig Motel Picard, et même sur notre newsletter. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Allez, on va le dire en exclu. On va aller voir un peu ce qui se passe du côté de Bordeaux.